de Géodame,
Attendre en 2020.
Œuvre publiée sous licence Creative Commons, BY, NC, ND, 3.0. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Jehan.
Attendre en 2020.
Suite. Neuvième jour. Lundi 23 mars 2020. Petit coup de blues, baisse de morale, hier soir, à cause des discours multiples, démultipliés, mais finalement dans la même tonalité et prononcés sur le même ton anxiogène, celui de l'urgence, de l'angoisse. On ne sait plus qui croire. Faut-il d'ailleurs croire quelque chose ? Une amie m'a dit qu'elle zappait toutes les informations. D'un certain côté, elle a raison, mais je ne pense pas qu'il faille tout ignorer quand même. Il faut dire que le temps a été gris et frais tout le week-end. Certes, pas envie de sortir, donc moins de regrets à rester confiné, mais une lumière si triste. Ce matin, c'est un joyeux soleil, dont seuls ceux qui ont un jardin pourront profiter sereinement. Dans l'après-midi, on entendra des tondeuses. Les jardiniers ne perdent pas leur temps. On nous l'avait annoncé, enfin une bonne disposition. L'école à la télé. Ce matin, sur la chaîne France 4, à 9h, cours de lecture et d'écriture pour les élèves de CP, avec leçon 1. J'ai collé Ulysse devant l'écran et je regardais avec lui. Évidemment, Elsie a voulu suivre aussi, et pour une fois, elle a réussi à rester tranquille et silencieuse. J'ai pris des notes. J'irai aussi voir le site consacré à cette série d'émissions pour pouvoir retravailler avec les enfants. Cela a beaucoup intéressé Ulysse et le motive sérieusement. Que ce qu'il apprend à l'école soit un sujet pour la télévision, c'est sérieux. La suite consacrée aux calculs, aux nombres et aux problèmes a moins intéressé ma fille, mais Ulysse n'a pas décroché. Le calcul mental a été abordé à propos des doubles, comme lorsqu'on obtient un double 6 avec 2 dés. Cela donne 12 pour avancer son pion de 12 cases sur une grille. Ulysse a remarqué que les dominos comportant deux fois le même nombre de points ont un rôle différent dans le jeu, même s'ils ne sont pas additionnés. Par contre, il a tiqué sur les doubles dans les cartes à jouer. Par exemple, pour lui, un 3 de cœur n'est pas le double d'un 3 de trèfle ou de pique, comme il l'a appris en jouant au solitaire sur l'ordinateur de sa grand-mère. Certes, cette leçon n'était pas très longue, mais il m'a demandé une feuille de papier pour établir le tableau des nombres dont il a été question. Puis il est allé chercher sa boîte de briques de Lego pour effectuer des problèmes, tels que ceux qui ont été proposés dans l'émission. On y a joué un moment jusqu'à ce qu'il commence à se lasser. Je pense que les prochaines séances d'école à la maison seront plus faciles à suivre. Cependant, ce qui nous a bien fait rire, Stéphane et moi, c'est que la démonstration de la maîtresse à l'écran, comptant sur ses 10 doigts, a rappelé aux enfants une blague que ma mère leur a plusieurs fois racontée. « Vous n'avez pas 10 doigts, mais 20 doigts. Si, si, je vous assure, je vais compter avec vous. Montrez-moi vos mains. » Et ma mère se met à compter sur les deux mains tendues vers elle. « 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 17, 18, 19, 20. Et voilà !» Évidemment, les enfants sont ravis de ce tour de magie, mais ils savent bien que ça ne compte pas pour calculer. Tradition orale, cette comptine vient de mon arrière-grand-père qui la racontait à ma mère lorsqu'elle était petite. J'ai raconté cette matinée à ma mère au cours de notre conversation téléphonique journalière. Elle m'a dit se souvenir, mais assez vaguement, parce que c'était rare, qu'elle avait assisté, en classe de CM1 ou CM2, lorsqu'elle était enfant, à des cours à la télé, sur un téléviseur installé en classe, en noir et blanc bien sûr à l'époque, mais il y a belle lurette que les chaînes télé se sont détournées de ces diffusions studieuses au profit de programmes aussi nuls pour les grands que pour les petits. Dixième jour, mardi 24 mars 2020. Je viens d'avoir des nouvelles d'une amie qui habite en ville, en appartement, avec ses deux enfants. Ignace est aussi bavarde que moi et nous passons régulièrement des heures au téléphone. Mais là, j'ai senti qu'elle avait vraiment besoin de parler. Un peu comme ces personnes qui vivent seules et se jettent sur tous ceux qui les approchent pour rattraper le papotage perdu. Certes, elle n'est pas isolée. Elle a son fils de 11 ans et sa fille de 7 ans. Mais on ne peut discuter avec des enfants comme avec des adultes. Je l'ai écoutée plus que je n'ai parlé. Non seulement elle en avait besoin, mais en plus, elle m'a raconté leur vécu qui n'est pas triste. D'être confiné dans un appartement avec deux petites bombes comme ses enfants, surtout son fils habitué à courir, jouer au foot, s'exercer au full contact qu'il vient de découvrir, ce n'est pas rien. Très difficile d'obtenir des moments de calme, sauf à les laisser se plonger dans leur jeu sur les écrans, mais ce n'est pas bon qu'ils y restent trop longtemps. Heureusement, les enfants ont chacun leur chambre, cela limite les frictions. Et ils ont un balcon où ils peuvent jouer au foot-balcon, en faisant rouler le ballon au sol. Interdiction qu'ils franchissent le garde-corps, sinon il sera perdu définitivement. Ce n'est pas en allant promener leur chienne, une fois par jour et pas loin, ni longtemps, que leur mère pourra aller le récupérer. Je mesure là notre grand privilège d'avoir un jardin, où Ulysse et Elsie peuvent s'ébattre, sans se battre. L'école, à la télévision, pour leurs classes respectives, a la bonne idée, après les cours dispensés par plusieurs instituteurs et institutrices, de proposer un peu de yoga adapté à leur âge. C'est une bonne découverte qui, peut-être plus tard, débouchera sur une pratique plus assidue. Inès tente d'intéresser ses enfants au sport en chambre, avec des bouteilles d'eau en guise d'haltère, du pédalage allongé sur le dos, des étirements permettant de dénouer les postures crispées devant les jeux vidéo. Sur les balcons de l'immeuble d'en face, certaines personnes se lancent dans des exercices physiques et les habitants de son immeuble leur répondent joyeusement. Une forme d'entraînement à distance qui se solde par des applaudissements et des rires. En ce qui concerne l'approvisionnement, Inès y va seule. Ses enfants sont assez grands pour rester sagement confinés pendant le temps qu'elle y consacre. Elle m'a raconté plusieurs anecdotes assez cocasses. Je n'en ai retenu qu'une seule, va savoir pourquoi. Celle d'une petite grand-mère qui a posé sur le tapis de la caisse une bouteille d'eau pétillante et trois bouteilles de Suze. A-t-elle décidé de s'évader de son confinement avec cette boisson plus alcoolisée que le vin ordinaire, mais pas assez pour se saouler gravement, à moins de siroter les trois bouteilles d'affilée, ni fabriquer du gel hydroalcoolique? Inès a des amis dans l'immeuble d'en face, mais ils ne peuvent se voir actuellement. Seulement se saluer de loin, dans la rue, ou en mettant des grandes feuilles de papier kraft sur les fenêtres, sur lesquelles ils écrivent des messages d'amitié et de soutien. L'un de ses amis en particulier en a bien besoin. Il est sapeur-pompier. Contrairement aux autres personnes, il n'est pas confiné chez lui. Au contraire, il doit rester disponible, sur le pont, toujours prêt, pour aller au secours des personnes malades ou accidentées, régulièrement en contact avec les services de secours d'urgence, avec les personnels hospitaliers. Ses amis, qui l'ont surnommé Sam le pompier, redoutent l'infection qui peut l'atteindre. Sam est en revanche doublement pénalisé, puisqu'il ne peut pas recevoir chez lui ses enfants dont il a la garde partagée. Inès a conclu notre conversation sur une colère qui est aussi la mienne. Alors qu'il est obligatoire que tout le monde, adultes, vieilles personnes et même enfants, reste chez eux, qu'elle retient son fils et sa fille prisonniers de leur appartement, elle est furieuse que des parents laissent leurs enfants jouer dans la rue pendant des heures. Je trouvais abusive la menace de verbalisation, mais là je comprends et je suis d'accord. Ce genre de comportement mériterait une sanction. Le pire, c'est qu'elle risque d'arriver par le vecteur du virus. Lorsque ces gens seront malades ou leurs proches, comprendront-ils enfin leur inconséquence? 11e jour, mercredi 25 mars 2020. Plus que jamais, je pense à ces parents confinés, avec des enfants dans des appartements sans balcon ni jardin. Cela fait à peine plus d'une dizaine de jours que nous devons rester confinés, et je sens bien que Ulysse et Elsie manquent d'occupation, d'espace, de relations avec les autres. Elsie s'est parfois très bien trouvée à s'amuser toute seule, même si c'est aux dépens de mon tiroir à chaussures. Hier, elle a passé un bon moment à les sortir, les essayer, se balader dans le séjour, en singeant mes attitudes, imiter la belle dame, plus maniérée que je ne le suis, dans mes chaussures à talons, mimer ma démarche hésitante lorsque je traîne les pieds dans mes chaussons en peluche, mal réveillée dans ma robe de chambre douillette, ou encore jouer les midinettes en bikini sur la plage avec mes tongs de l'été dernier. La petite chippie est une excellente comédienne et elle sait provoquer nos rires pour qu'on lui pardonne son impertinence. Si elle continue sur cette lancée, son avenir professionnel est assuré. Elle aura un succès fou. Il reste que lorsqu'on lui demande de ranger le désordre qu'elle a provoqué, c'est une autre chanson qui se termine en menaces et pleurs. Heureusement, elle n'est pas rancunière et ne boude pas longtemps. Par contre, elle va souvent alors envahir l'espace de jeu de son frère. Ulysse aime jouer seul, à ses minuscules pièces de Lego, dont il sait identifier l'origine malgré le démontage et le mélange. là une pièce de la fusée, là un casque de super-héros, de pompiers ou de combattants. Les briques de telle couleur proviennent de telle construction ou de tel véhicule. Même s'il ne les reconstruit pas, les jouets restent dans sa mémoire. Alors, évidemment, quand sa peste de petite sœur vient et s'amuse à tout déranger, cela l'agace et cela finit souvent par des querelles, voire des bagarres qu'il faut endiguer. Même dans le jardin, elle ne le laisse pas tranquille. Près de notre maison, il y a un petit chemin agricole bordé d'arbres et débouchant sur un pré. J'ai proposé à Ulysse d'y aller pour quelques coups de pédale. Enthousiaste, il a enfourché son cheval d'acier et nous sommes partis, lui et moi. J'ai laissé Elsie à la garde de son père. Nous avons parcouru le chemin, mais arrivé au bout, déception. Le pré est fermé avec une barrière. J'ai interdit à Ulysse de la franchir. Qui sait s'il n'y a pas des animaux à brouter dans ce pré? Il me rétorque qu'il ne voit rien, mais je lui dis qu'ils sont peut-être encore dans le vallon, dont on ne voit pas le fond. Et j'ajoute, « Regarde, retourne-toi. D'ici, on ne voit même plus notre maison. » En effet, dissimulée par les arbres, elle est devenue invisible. « C'est comme chez mamie !» s'exclame-t-il, ravi. « Oui. Et tu vois, tu pourras venir sur ce chemin autant que tu le voudras, à condition que tu n'entres pas dans le pré. Promis, je vais devenir le plus grand champion cycliste. » Il ne faut pas grand-chose pour stimuler l'imaginaire des enfants, surtout Ulysse qui y voyage dans ses idées, un peu comme le héros mythique dont il porte le nom. Lorsque nous rentrons à la maison, c'est l'alerte maximale. Dans la véranda, une colonie de fourmis a décidé de s'installer. Déjà, des files de bestioles cheminent au bas des murs, longeant le tracé marqué par les exploratrices du premier rang. Il faut intervenir avant qu'elles ne trouvent le chemin de la cuisine et de ces gourmandises sucrées qu'elles sauront bien dénicher, même si elles sont bien confinées dans leur boîte. Impossible d'aller acheter de l'antifourmi. Cela ne rentre pas dans les courses de première nécessité pour lesquelles nous sommes autorisés à sortir. Pour une fois, la fourmilière aura partiellement la vie sauve. Stéphane a sorti l'aspirateur et commence le ramassage. Non pas scolaire, mais des travailleuses. Puis il va vider le réservoir à poussière dans le jardin. Certaines pourront ainsi continuer à vivre. Tout en s'activant pour amuser les enfants, il clame « Alerte chez les fourmis ! Un gros aspiratus vient contrarier leur tentative de coloniser une maison humaine. Toutes aux abris. Confinement obligatoire dans la fourmilière. Allez, oust !» 12e jour, jeudi 26 mars 2020. J'avoue que je n'arrive plus à écouter les différents discours, les reportages, les émissions consacrées à cette pandémie trop déprimant. J'ai l'impression de rentrer dans un confinement de l'information, de me renfermer sur moi-même, sur notre petite vie hors du monde, presque hors du temps. On en arrive à se conformer à une sorte de routine de la survie, juste attendre. Cela n'empêche que nous avons parfois des nouvelles de l'extérieur, qui nous touchent et nous interpellent. Ainsi, ma mère évoque le retour du printemps et des tiques. Oui, beaucoup de points de suspension. Ces petites bestioles voraces qui utilisent les chevreuils, lièvres, écureuils, sans compter les oiseaux, comme moyen de transport pour se déplacer et aller trouver pitance toujours plus loin. En elles-mêmes, les tiques ne sont que des acariens comme les autres, plus gros que ceux qui hantent nos literies, surtout quand elles sont gavées de sang et que, leurs panses gonflées de la taille d'une lentille, elles se laissent tomber pour aller pondre des dizaines de petits œufs qui donneront autant de petites tiques. Mais leur gros problème, c'est qu'elles sont porteuses de bactéries et responsables de maladies infectieuses, dont celle de la maladie de Lyme. L'expansion de cette maladie est sujette à hypothèses variées, mais il est certain qu'il s'agit là également d'une pandémie, au niveau mondial, qui, à la différence de celle du Covid-19, n'est pas reconnue, sans doute parce que la maladie de Lyme n'est pas considérée comme mortelle, du moins à court terme, après la contamination. Il en résulte donc un déni, en France en particulier, par les autorités de santé. Les tests existants pour l'identifier ne sont pas tous fiables et donnent lieu à des résultats contradictoires. De plus, c'est une maladie sournoise, silencieuse, imitatrice. Ses symptômes sont parfois ceux d'autres affections. Or, la médecine occidentale soignant les symptômes sans forcément rechercher leur origine, nombreux sont les patients subissant des traitements pour des maladies qu'ils n'ont pas en réalité. Je ne vais pas enfourcher le cheval de bataille favori de ma mère, car, mieux que personne, elle saurait en parler, puisqu'elle-même atteinte par cette maladie. Mais je ne peux m'empêcher de comparer les deux pandémies. celle ultra rapide dans sa propagation avec des conséquences quasi immédiates et dramatiques du coronavirus, et celle lente, insidieuse, niée, mais qui perturbe gravement la vie des malades, sinon parfois de lourds handicaps de la maladie de Lyme. Aujourd'hui, la recherche médicale se hâte pour trouver des médicaments, des vaccins pour la première, alors que pour la seconde, plus ancienne, tout aussi répandue, les scientifiques semblent ne pas s'y intéresser. Et pourtant, il semble se détacher une caractéristique sinon commune, du moins parallèle. Dans la contamination du Covid-19, il y aurait, conditionnel, ce n'est pas encore confirmé, des super-propagateurs du virus, des gens plus sensibles, plus accueillants pour le virus, le développeraient davantage lorsqu'ils entrent en contact et de ce fait seraient en mesure de contaminer davantage de personnes. Cela me fait irrésistiblement penser à ces gens qui se font toujours piquer par les tiques et d'autres jamais, même s'ils sont ensemble, comme si les uns étaient plus comestibles que les autres par ces bestioles. Il y aurait peut-être là une piste à creuser. Savoir ce qui différencie les bons des mauvais transmetteurs de ces maladies et armer les mauvais pour qu'ils deviennent des bons qui ne les partagent plus. Mais cela serait-il profitable à l'industrie pharmaceutique ? Sans doute que si c'était le cas, la recherche aurait avancé dans cette direction. En l'occurrence, contrairement au dicton, il semble que ce seront les petites bêtes qui vont manger les grosses. Au même titre que l'on dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières, on pourrait dire que les petites bêtes, bactéries, virus, font les grandes fortunes pharmaceutiques. Pour en revenir à ma discussion avec ma mère, elle a déjà trouvé une tique sur une de ses cuisses. Pourtant, vu la saison, elle ne portait pas de short. Elle a ressorti les sprays antiparasites dont elle s'asperge avant de sortir afin de tenter de les éviter. Même si la maladie de Lyme est devenue chronique chez elle, elle sait qu'une morsure de tique, infectée, elles ne le sont pas toutes heureusement, mais on ne peut le savoir à l'avance, peut raviver les symptômes. Elle me prêche donc la prudence lorsque je laisse Ulysse aller faire du vélo sur le chemin. Le fait que le pré au-delà soit fermé la rassure un peu. Comme si une pandémie ne suffisait pas, il en faut une seconde. Ma mère m'a dit aussi que ses séances d'aquagym lui manquent. Elle est très soucieuse de l'avenir du centre où elle la pratique. C'est la seule activité proposée par cette installation. Il a été fermé avant même l'ordre de confinement total pour des raisons de sécurité sanitaire. 15 personnes maximum par séance, mais des séances qui s'enchaînent toute la journée, des vestiaires communs dans un local relativement petit. Cela donne une promiscuité importante et risquée, même si elle est très aseptisée par le chlore de la piscine. La structure sportive risque de ne pas résister au manque d'activité et donc de rentrée financière. 13e jour, vendredi 27 mars 2020. Prolongation officielle du confinement jusqu'au 15 avril. On sait tous déjà que ce ne sera pas assez, que le déconfinement sera long, lent, difficile, et le retour à la normale n'est pas pour demain, ni après-demain. Je me sens inutile et je me culpabilise. Comme j'exprimais ce sentiment à une de mes voisines, Josiane, qui travaille pour un organisme d'aide à la personne, qui poursuit ses visites aux personnes âgées qui sont elles-mêmes surconfinées, elle m'a répondu « Garde tes forces en réserve, Sophie. Lorsque le moment sera venu, il faudra reconstruire ce que cette épidémie et tout ce qu'elle a provoqué a détruit. Il faudra que des personnes comme toi prennent notre relais à nous qui devons rester sur le front. » Nous serons alors complètement épuisés, et c'est nous qui aurons besoin de soutien. Je lui ai évidemment promis d'être là pour elle le moment venu. Josiane est en relation étroite avec les infirmières qui viennent assurer les soins à ces vieilles dames recluses, à ces vieux messieurs enfermés, autant dans leur handicap que dans leur isolement. Certains n'ont pas ou peu de famille, peu de relations, n'ont pas Internet pour compenser. J'ai proposé de leur téléphoner pour parler un peu avec elles. Josiane m'a promis de me donner leurs coordonnées si elle le souhaite. Ainsi, je me sentirai un peu utile. Aucune nouvelle de ma boîte. Certaines entreprises de couture se sont lancées dans la confection de masques pour les soignants. Ce n'est a priori pas le fait de celle où je travaille. De toute façon, si c'était le cas, ils ne pourraient rappeler toutes les employées. Non seulement celles qui sont en charge d'enfants jeunes doivent continuer à les garder, mais il serait inconscient de rassembler tous les jours, dans un espace aussi restreint, malgré sa taille qui semble grande, les 40 couturières de la société. Sans oublier la promiscuité dans la salle qui sert de cantine, les toilettes et vestiaires, déjà en temps normal au niveau de l'hygiène, c'est très limite. Par contre, la société qui emploie Stéphane l'a sollicité pour une reprise du travail. La demande n'était pas impérative, mais il devait choisir entre reprendre le travail ou rester chez lui avec des jours de congé, des RTT ou sans solde s'il le préférait. Il a donc négocié. Il reste jusqu'à la fin de cette semaine, aujourd'hui donc, en congé, puis, à partir de lundi, il reprendra son activité en horaire décalé de ses collègues. Je redoute ses sorties qui vont reprendre, mais il m'a promis qu'il serait prudent. Je sais qu'il le sera, comme je sais aussi qu'il a un poste où il doit déjà se protéger, avec masque, combinaison, gants, des émanations des produits chimiques, surtout des solvants dont il se sert. Il travaille seul, sans collègues à ses côtés, dans un local où il est confiné, oui, et ses horaires, aménagés non-stop, le dispenseront de déjeuner sur place, de 6h à 13h sans interruption. Il rentrera à la maison pour manger. Pour y aller, ce sera aussi comme d'habitude. Nous habitons dans un hameau à l'égard du bourg, et à part le ramassage scolaire, il n'y a aucun transport en commun. Ce qui paraît un handicap pour les personnes habituées à en disposer au quotidien, qui est une charge financière pour notre foyer, à savoir disposer l'un et l'autre d'un véhicule pour nous rendre au travail, se révèle là un avantage certain. Donc, dès lundi, je me retrouverai en charge, seule, avec mes petits monstres. Mon amie Inès, celle qui habite en appartement, m'a dit que son fils de 11 ans s'accommode très bien de ce confinement. Il a décidé qu'il était dans une navette spatiale, ce qui lui évite de sortir et de rencontrer les autres, autrement que par écrans interposés. Lorsqu'elle lui impose une sortie sportive d'une heure, elle a du mal à le décider. Il préfère prendre l'air sur leur balcon. Pour un peu, il adopterait le comportement dit « hikikomori », ces jeunes qui se cloîtrent hors du monde. Les nouvelles aux informations sont alarmantes, délirantes, désespérantes. Depuis les reportages qui montrent des camions frigorifiques réquisitionnés
pour entreposer les corps des défunts,
jusqu'aux interviews de familles touchées par le décès d'un proche, et en particulier de la jeune fille de 16 ans, alors que le virus est censé n'être fatal principalement que pour les personnes âgées ou déjà malades, et les bilans chiffrés sont ahurissants, à se demander s'il restera des survivants. Quant à la répartition géographique des attaques de la pandémie, elle est très éloquente. Partout où il y a une forte concentration de population, c'est l'hécatombe. Stéphane a une tante qui vit aux États-Unis. Cette sœur de sa mère, Louisa, a épousé un Américain, Harry, très sympa. Ils sont venus nous voir l'été dernier et Ulysse a été ravi de pouvoir utiliser les mots de salutation en anglais qu'on pouvait lui apprendre. Nous nous parlons régulièrement au téléphone et ils nous ont dit que depuis le début de la pandémie en France, ils ont arrêté leurs activités. Et à l'image de notre vie en France, ils ont décidé de se tenir à l'écart, le plus possible, des autres personnes. Ils se sont constitués des réserves et vivent reclus chez eux. Heureusement, ils ne sont pas proches des centres de contamination. Nous avions prévu d'aller leur rendre visite l'été prochain, chez eux. Je pense que ce sera partie remise. Mais quand ? 14e jour, samedi 28 mars 2020. Annonce de l'arrivée en masse de Parisiens dans la région. Certes, surtout plus près de la côte que nous ne le sommes, mais j'ai vu que dans la résidence secondaire de notre hameau, la seule, puisque toutes les autres maisons sont occupées à l'année par des gens qui travaillent par ici, des personnes se sont installées, sans doute les propriétaires qui sont venus se mettre à l'abri. Espérons qu'ils n'ont pas invité le Covid-19 pendant leur séjour. Je n'irai pas me frotter à eux, c'est certain, mais je ne serai pas désagréable ni agressive s'ils se confinent comme nous. Par contre, je crains que d'autres ne le soient et les reçoivent très mal lorsqu'ils iront acheter leur pain ou quelques produits alimentaires. J'ai déjà vu tourner l'information sur notre petit réseau de voisins et certaines réflexions ne sont pas éminemment cordiales. Cela me rappelle les quelques mois où nous avions résidé sur l'île de Noirmoutier, quand j'étais gamine, pour des raisons liées au travail de mon père. Je me souviens bien de l'impatience des insulaires avant l'arrivée estivale des touristes. Mais dès que ces envahisseurs étaient arrivés, les autochtones n'avaient qu'une hâte, qu'ils dépensent leur argent et qu'ils s'en aillent, qu'ils retournent sur le continent comme l'indiquent les panneaux routiers. Ma voisine Josiane est en contact, à distance réglementaire, avec des personnes âgées, mais également de soignants, médecins ou infirmières. Elle a déjà eu maille à partir avec des gens qui lui lançaient des interjections violentes pour lui ordonner de rester chez elle, de ne pas diffuser le virus. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui est très attentionné aux autres, à l'hygiène et à la sécurité sanitaire, c'est bien elle. Cette montée d'agressivité, de haine même, est très inquiétante. L'étranger n'est plus seulement celui qui a une origine géographique, une langue ou une couleur de peau différente. C'est celui d'à côté, l'ancien ami, avec qui l'on partageait des apéritifs les soirs d'été, qui, parce qu'il vient de quelques centaines de kilomètres, est soupçonné, que dis-je, accusé, d'être un contaminateur semant la mort. Autre nouvelle, une énorme commande de masques et d'autres matériels sanitaires a été faite à la Chine. Lorsque quelqu'un sur nos messageries a posé la redoutable question « À qui profite le crime ?», je n'ai pas répondu, bien sûr. Inutile d'alimenter de telles polémiques, pas plus que celles des complots et autres effondrements de la civilisation qui fleurissent en ce moment plus que jamais. Mais j'ai ressenti une étrange sensation, celle d'être prise, comme tout le monde, dans l'œil d'une tornade, ou dans le centre d'un vortex, nous entraînant inexorablement dans un destin que nous n'avons pas choisi, qui nous laisseront retomber sur des ruines après leur passage, dans un trou noir céleste qui nous déposera peut-être dans un autre univers à reconstruire, et cela quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide. Tout au plus, pouvons-nous espérer survivre en suivant l'ordre de confinement, utiliser la force d'inertie, attendre et voir venir. 15e jour, dimanche 29 mars 2020. Soleil et nuages, et surtout du vent. Depuis les tempêtes de février dernier, je suis sinon inquiète, du moins vigilante, quand je l'entends tourner autour de la maison. Alors je suis montée à l'étage, et par les fenêtres des chambres, j'ai surveillé les arbres alentour. Pas de souci pour le moment. La force du vent n'est pas trop importante. Les branches sont fouettées, mais comme il n'y a pas encore de feuillage, l'air passe entre elles sans les accrocher. Par contre, j'ai pu admirer le sacré gros travail exécuté par des indésirables dans le champ voisin. L'agriculteur, qui s'est acharné à semer dernièrement du blé, peut-être, ou autre chose, va être content. Les sangliers ont investi toute une partie de sa parcelle. Pas un mètre carré intact sur cet angle. Ce ne sont que creux et bosses. La récolte est d'ores et déjà perdue. J'avais déjà entendu dire que confinement oblige, et oui, les réunions de chasseurs pour les battues aux sangliers étaient interdites. Or, c'est en mars en général que ces chasses ont lieu, afin de réguler, c'est le mot officiel, le nombre de bestiaux dont l'expansion devient de plus en plus incontrôlable. Si l'on considère déjà que cette régulation est insuffisante, si elle n'a pas lieu, cela va donner à ces cochons la possibilité de se reproduire et se multiplier sans le moindre obstacle. De même, le nombre restreint de véhicules sur les routes leur est favorable. Nous avons la chance que notre jardin soit clôturé par des murets surmontés de grilles métalliques bien solides. Cela n'empêche pas l'eau de nous envahir lors des inondations, comme en janvier dernier, mais au moins cela évite des visites indésirables. L'un de nos voisins dont le jardin donne sur un pré et qui n'est fermé que par une haie que les animaux sauvages franchissent sans même s'en rendre compte, en a payé le prix fort l'année dernière. Toute sa pelouse, bien tondue, bien plane, a été retournée en une nuit. Les sangliers sont même venus sur sa terrasse pour bousculer les pots de fleurs et manger les vers de terre, dissimulés dessous. Inutile de dire qu'il envisage de sécuriser sa propriété par une clôture digne de ce nom. Et en attendant, il veille à toujours fermer le volet de la porte-fenêtre qui donne sur cette terrasse. Une fois rassuré pour ce passage venteux, j'ai dû m'atteler à la corvée de changement d'heure. Sur Internet, certains s'amusent à dire que grâce à l'heure d'été, on a une heure de confinement en moins. On peut le voir comme ça. Toujours est-il qu'il faut réajuster toutes les pendules, réveils et autres objets non connectés qui ne se mettent pas à l'heure automatiquement. Quand sera enfin décidé de ne plus changer d'heure? Qui peut dire là aussi à qui ça profite? Aux informations ce soir, un reportage sur une société de fabrication de masques à Plaintel, Bretagne, qui a été rachetée par les Américains et qui a fermé ses portes en 2018 parce que non rentable, alors que cette société produisait des masques de qualité qui étaient même exportés. Vraiment du grand n'importe quoi. Il y a de quoi être furieux. Parce que les machines ont été détruites. Impossible même de tenter une reprise de fabrication, alors que les anciens ouvriers sont toujours là avec leur savoir-faire. Cela ne s'oublie pas en 2 ans. Quel immonde gâchis! Tout ça parce que ça ne profitait pas assez aux dirigeants, étrangers qui plus est, de cette société. Cela ne suffit pas qu'on délocalise la fabrication de nombreux produits. Il faut aussi qu'on laisse racheter des sociétés qui sont en définitive sacrifiées sur l'autel du profit. On marche vraiment sur la tête. Parfois, j'ai envie de me mettre à rechercher des informations, savoir où ça en est, de la contamination, des dispositions prises par chaque pays, de la situation des malades, des soignants, bref, de me tenir au courant et au plus près. Mais, outre que c'est très stressant, on en arrive à ne plus savoir ce qui est la vérité, l'intox, la manipulation pour agir par la peur, cacher les intérêts sous-jacents, parce qu'il y en a, sûrement. Sans vouloir se mettre la tête dans le sable ou sous l'aile, il faut savoir raison garder, comme le dit le bon sens populaire. 16e jour, lundi 30 mars 2020. Restez à la maison. Le slogan est seriné, mais qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas de maison ? Je veux dire un refuge confortable où chacun a son espace personnel, en plus des espaces collectifs. Qu'en est-il de ceux qui résident en appartement, sans balcon ni jardin, avec des chambres partagées entre frères et sœurs ? Et que dire pour ceux qui n'ont pas du tout de logement, les sans-abri, qui n'ont plus la possibilité de se réfugier dans les lieux habituels, couloirs de métro, galeries marchandes, halls d'immeubles, etc. On voit là l'ignominie de notre système, où ce sont toujours les mêmes qui sont sacrifiés. Je trouve le temps long. J'ai envie de voir ma mère, et pourtant cela nous arrive régulièrement de ne pas nous rendre visite pendant 15 jours, voire plus, sans que cela nous dérange, puisque nous communiquons par messagerie ou par téléphone. Non, là, ce qui rend les choses difficiles, voire insupportables, c'est de ne pas avoir le droit de se voir, comme si nous étions des pestiférés l'une envers l'autre. Dans ce cas, l'interdit n'incite pas à la transgression, comme il est interdit d'entrer dans un endroit que l'on voudrait découvrir. Il incite à la colère. Je me sens en colère ce matin, et je vois que ma colère est partagée. Dans les informations sur les réseaux sociaux, cette épidémie était-elle prévisible ? Les chiffres de la contamination sont-ils sur ou sous-évalués ? Les discours officiels sont-ils fiables ? Toutes ces questions montrent que la confiance n'est pas de règle. En effet, qu'en est-il véritablement du nombre des morts en Chine, dans la province de Hubei, principalement ? Quoique, qu'en savons-nous réellement ? Il y a peut-être d'autres régions qui sont touchées aussi. Certains comparent les chiffres officiels et le nombre d'urnes funéraires livrées dans les différents crématoriums autour de Wuhan et y trouvent une différence qui leur paraît significative. De même, après un long confinement commencé en fin janvier, si mes sources sont exactes, l'assouplissement de ces mesures suite à une baisse dite significative des nouveaux cas de malades infectés, il est dit que les contaminations repartiraient à la hausse. Le même phénomène d'informations aléatoires oscillant entre la réalité, les allégations fausses et le discours politiquement correct se produit aussi aux États-Unis. Nous en avons discuté avec la tante Louisa et Harry au téléphone ce dimanche. Ils sont très soucieux, et nous aussi. Reprise de l'école à la télé ce matin. Ulysse trouve que c'est un peu basique pour lui. Il faut dire qu'il est dans un établissement qui accompagne bien les enfants et les pousse assez loin dans le programme. Du coup, il regarde même les classes supérieures à la sienne. Il ne comprend pas tout, mais pose des questions auxquelles il ne m'est pas facile de répondre. L'après-midi, malgré le froid cinglant apporté par le vent fort venant du nord-est, il a voulu sortir avec son vélo dans le petit chemin d'exploitation. J'ai laissé Elsie à la garde de son père, revenu du travail à 13 heures comme prévu, et je suis allée avec lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir l'accompagner, mais bien m'en a pris. Il était à peine en train de faire son premier aller-retour que deux garçons sont arrivés. Des inconnus, sans doute ceux de la résidence secondaire occupée par leur propriétaire parisien. L'un paraît être de l'âge d'Ulysse, l'autre plus âgé, une douzaine d'années sans doute. Ils se sont approchés de mon fils, presque à toucher son vélo. Lorsque le plus grand a voulu mettre sa main sur le guidon, je me suis interposée. « Stop, on s'écarte !» Mon interjection a provoqué le recul que je souhaitais, mais le gamin m'a regardé d'un air insolent. « On n'est pas des pestiférés, hein ?» J'ai bien vu qu'il se sentait agressé et pourrait devenir brutal. Alors j'ai repris, d'une voix apaisante. « Qui te dit que ce n'est pas nous qui le sommes ? C'est le confinement. Nous devons rester à distance, et même dans nos maisons, si possible. » Et j'ordonne à mon fils, « Allons-y. »
Ulysse, impressionné, obéit sans un mot. Je lui emboîte le pas, pendant que le môme crie dans mon dos
« Mon père dit que c'est des conneries, cette histoire de virus. C'est juste pour que les paresseux ne bossent plus. »
Je me retiens de lui répliquer que c'est pour ça que sa famille et lui sont venus en vacances dans leur résidence secondaire. Mais je préfère ne pas envenimer les choses.
Une fois revenus à la maison, Ulysse me pose des questions. Et je dois lui réexpliquer pourquoi nous sommes obligés de nous confiner.
Pas seulement pour obéir aux directives gouvernementales,
mais surtout pour éviter d'être contaminés et de répandre le virus à notre tour.
J'achève mon exposé en ajoutant « C'est à cause de gens qui ne réfléchissent pas, qui sont égoïstes, que d'autres souffrent et meurent.
Et quand est-ce que ça redeviendra comme avant ?
Je ne sais pas, mon poussin, il faudra encore attendre. »
17e jour, mardi 31 mars 2020. Ma colère d'hier est passée. Je me demande si elle n'était pas la conséquence de la reprise du travail pour Stéphane. Lorsqu'il est rentré, hier, il m'a raconté qu'il a eu l'impression d'être un astronaute. Confiné dans sa fusée automobile, il est arrivé sur le site de la navette spatiale. Juste le temps de valider son badge pour entrer sur le parking, il a salué d'un mime labial le « bonjour » au gardien, enfermé dans sa guérite à l'entrée du bâtiment. Il a rejoint son poste de travail et dans le vestiaire, il a enfilé sa combinaison, son masque, ses gants. D'habitude, il partage ce local avec un collègue qui assure la suite des horaires de travail. Mais le gars a démissionné depuis quelques semaines et à cause du confinement n'a pas été remplacé. Stéphane est donc le seul maître des lieux. Il a exécuté ses 7 heures de travail d'affilée, avec seulement 2 petites pauses de 10 minutes. Puis il est revenu tout aussi solitaire sur la route qu'à l'aller. Mon amie Inès m'a donné des nouvelles d'une amie commune, Violette, qui réside dans la capitale régionale, en pleine ville donc. Après quelques phrases d'annonce alambiquées autant qu'embarrassées, elle a fini par me dire que Violette a eu de la fièvre dimanche. Mais ce n'est rien, pas du tout à cause du virus, a-t-elle voulu me rassurer. Ils ont fait venir SOS médecin et la cause de cette fièvre a été identifiée. Ouf! Elle a un traitement antibiotique et ça va aller mieux. C'est vrai qu'en ce moment, dès qu'on entend certains mots, on est tout de suite inquiet. Et d'autant plus que Violette a un bébé de 6 mois. Il importe qu'elle reste en bonne santé pour s'occuper de lui, parce que si son compagnon est présent, puisqu'il a un emploi qui permet le télétravail, il n'est pas libre toute la journée. En effet, Violette a raconté à Inès que son employeur, autant que les clients qui le contactent, profite de sa totale disponibilité pour le joindre hors des heures habituelles de service. Il est obligé de couper son téléphone professionnel au-delà de certains horaires. Mais se le fait vertement reprocher par son patron. Il craint qu'après le confinement, la reprise de travail dans des conditions normales soit difficile. Ma mère pratique le King Kong avec des amis dans un club. Évidemment, ces activités sont actuellement suspendues, mais leur professeur leur envoie par messagerie des fiches et des vidéos pour continuer à pratiquer la discipline chez eux. Elle me les communique régulièrement. Alors je tente de m'y mettre et j'invite les enfants à m'imiter. Cela plaît très moyennement à Ulysse, qui estime que ce n'est pas assez dynamique pour lui. Il préférait se lancer dans du karaté ou de la boxe. Il tente de s'entraîner sur les coussins du canapé. Par contre, Elsie, qui adore se calquer sur moi, y trouve une occasion rêvée de mimer mes attitudes. Surtout qu'un des mouvements, extrait du Qigong de la douleur, porte un nom qui lui plaît beaucoup. C'est « la fée du ciel semant ses fleurs ». Ce mouvement harmonieux dessine le signe de l'infini verticalement de la main qui est censée tenir en son creux les graines devant être semées. Je mets une musique adéquate et je souris de voir ma petite princesse osciller et se tortiller assez adroitement, je dois le reconnaître, dans ses gestes lents, comme un brin d'herbe bercé par le vent. Puis, comme elle ne rate pas une occasion, elle m'a demandé de lui coudre une robe de fée semant ses fleurs. Je vais devoir me mettre au travail. Faute de pouvoir aller chiner dans une mercerie, je chercherai dans mes réserves mes vêtements que je ne porte plus. J'ai en particulier une robe de demoiselle d'honneur que je ne remettrai jamais, qui pourrait convenir, pour découper un déguisement à son goût. Je vais retrouver ma machine à coudre personnelle et replonger dans ma passion de la couture. Cela va me changer de ma machine professionnelle qui me semble rendue aux oubliettes, mais à laquelle il faudra bien un jour que je me réattelle. À suivre. Merci pour votre lecture.